Bonjour à tous pour une nouvelle émission de la classe de CM2 de l'école Valin de La Rochelle.
C'est notre sixième émission sur le tour du monde en 80 jours d'après Jules Verne. Aujourd'hui, Émile va vous présenter le résumé de l'épisode précédent.
Puis nous entendrons le sixième chapitre de ce roman lu par quelques élèves de la classe.
Nour et Bruna vous liront la scénette qui imagine le moment où Phileas Fogg se fait servir à manger dans un restaurant. Mais il pense qu'on lui a servi du chat au lieu d'un lapin.
Elisa et Lily Rose vous expliqueront comment Jules Verne voyait la technologie. Adèle et Océane vous présenteront l'Himalaya. Une surprise vous attend. Océane et Ambre vous décriront l'éléphant d'Asie. Vous saurez tout sur cet animal.
Lily Rose et Elisa vous raconteront l'histoire de l'Inde et en particulier Gandhi.
Voilà, bonne émission à tous.
Vous allez maintenant entendre une version simplifiée du sixième épisode du Tour du Monde en 80 jours d'après Jules Verne. Si vous avez manqué le cinquième épisode, vous devez savoir que nos héros, Passepartout et Phileas Fogg, ont débarqué du Mongolia. Ils sont maintenant à Bombay, en Inde. Dans le restaurant, Monsieur Fogg demande si on ne lui a pas servi du chat. Dans les rues se déroule un carnaval. Passepartout entre dans une pagode religieuse avec ses chaussures, ce qui est interdit en Inde. Des prêtres l'attaquent, mais il parvient à se sauver. Plus tard, ils prennent le train pour Calcutta. Après une heure de trajet, malheureusement, il n'y a plus de rail. Ils louent un éléphant qui leur permet de continuer leur chemin.
Le guide, très habitué des routes et sentiers du pays, proposa de couper à travers la forêt. Après 2 heures de marche, il arrêta l'éléphant et lui donna 1 heure de repos. Sir Francis Cromarty ne se plaignit pas de cette halte. Il était brisé. Monsieur Fogg paraissait être aussi frais que s'il fût sorti de son lit.
Mais il est donc de fer ?
De fer forgé.
À midi, le guide donna le signal du départ. Cette partie de l'Inde était habitée par une population pratiquant la religion hindoue.
La distance parcourue pendant cette journée était d'environ 25 miles. Et il en restait autant à faire pour atteindre la station d'Allahabad.
La nuit était froide et on entendait des cris sinistres, des guépards et des panthères.
À 6 heures du matin, on se remit en marche et à 2 heures, le guide entra sous le couvert d'une épaisse forêt qu'il devait traverser sur un espace de plusieurs miles. Il était 4 heures alors. Qu'y a-t-il ?
Je ne sais pas.
On eût dit un concert de voix humaines et d'instruments de cuivre. Le Parsi sauta à terre, attacha l'éléphant à un arbre et revint quelques minutes plus tard disant
« Une procession de religieux qui se dirige de ce côté. S'il est possible, évitons d'être vus. » Le guide détacha l'éléphant et le conduisit dans un fourré en recommandant aux voyageurs de ne point mettre pied à terre. Bientôt, la tête de la procession apparut sous les arbres. Il distinguait aisément à travers les branches cette curieuse procession religieuse.
En première ligne s'avançaient des prêtres. Derrière eux, sur un char, apparut une statue hideuse traînée par 2 couples de zébus. Cette statue avait 4 bras. Sir Francis Cromarty la reconnut.
La déesse Kali, la déesse de l'amour et de la mort.
De la mort, j'y consens, mais de l'amour, jamais. La vilaine bonne femme.
Autour de la statue s'agitait un groupe de vieux fakirs. Derrière eux, quelques religieux traînaient une femme qui se soutenait à peine. Cette femme était jeune, blanche, comme une européenne. Tout son corps était surchargé de bijoux, colliers, bracelets, boucles et bagues. Une tunique lamée d'or dessinait le contour de sa taille. Derrière cette jeune femme, des gardes armés de sabres portaient un cadavre sur un palanquin. C'était le corps d'un vieillard revêtu de ses opulents habits de Raja, ayant comme comme en sa vie, le turban brodé de perles, la robe tissue de soie et d'or, la ceinture de cachemire diamantée et ses magnifiques armes de prince indien.
Puis des musiciens et enfin d'autres religieux dont les cris couvraient parfois l'assourdissant fracas des instruments fermaient le cortège.
Un suti !
Qu'est-ce qu'un suti ?
Un suti, monsieur Fogg, c'est un sacrifice humain. Cette femme que vous venez de voir sera brûlée demain aux premières heures du jour.
Comment ? Sans que sa voix trahît la moindre émotion, ces barbares coutumes subsistent encore dans l'Inde et les Anglais n'ont pu les détruire ?
Dans la plus grande partie de l'Inde, ces sacrifices ne s'accomplissent plus, mais nous n'avons aucune influence sur ces contrées sauvages.
La malheureuse brûlée vive.
Le guide expliqua cette pratique plus en détail, mais Monsieur Fogg l'arrêta et s'adressant à Sir Francis Cromarty.
Nous sauvions cette femme.
Sauver cette femme, Monsieur Fogg ?
J'ai encore 12 heures d'avance. J'ai pu les consacrer à cela.
Tiens, mais vous êtes un homme de cœur.
Quelquefois, quand j'en ai le temps.
Sir Francis Cromarty et Passepartout se rallièrent à cette idée et Francis Cromarty demanda au guide ce qu'il en pensait. Monsieur, répondit le guide, « je suis parsi et cette femme est parsi disposée de moi. » Ce brave hindou donna alors quelques détails sur la victime. C'était une indienne d'une beauté célèbre, de race parsi, fille de riche négociant de Bombay. Elle se nommait Aouda. Orpheline, elle fut mariée malgré elle à ce vieux Raja du Bundelkhand. 3 mois après, elle devient veuve.
Monsieur Fogg et ses compagnons attendirent la nuit. Le parti guidant Monsieur Fogg, Sir Francis Cromarty et Passepartout s'avança sans bruit à travers la forêt. Ils arrivèrent au bord d'une petite rivière et à la lueur des torches, ils aperçurent un monceau de bois empilé. C'était le bûcher. À 100 pas de ce bûcher s'élevait la pagode.
Et, redoutable de précaution, suivi de ses compagnons, il se glissa silencieusement à travers les grandes herbes. À l'arrière-plan, le temple de Pillaji se dressait confusément. Les gardes des Rajas veillaient aux portes.
Attendons, il n'est que 8 heures encore, et il est possible que ces gardes succombent aussi au sommeil.
Cela est possible, en effet.
Vers minuit et demi, ils arrivèrent au pied des murs sans avoir rencontré personne. Il fallait encore pratiquer une ouverture. La première brique, une fois enlevée, les autres viendraient facilement. Le parsi d'un côté, Passepartout de l'autre, travaillait à déceler les briques de manière à obtenir une ouverture assez large.
Le travail avançait quand un cri se fit entendre à l'intérieur du temple. Et presque aussitôt, d'autres cris lui répondirent du dehors. Le guide ramena ses compagnons vers la partie antérieure de la clairière.
Passepartout se glissa avec la souplesse d'un serpent sur les basses branches de l'arbre, dont l'extrémité se courbait vers le sol. L'obscurité était profonde encore. C'était le moment.
En effet, les portes de la pagode s'ouvrirent. Monsieur Fogg et Sir Francis Cromarty purent apercevoir la victime, que 2 prêtres traînaient au dehors.
Phileas Fogg et ses compagnons se mêlent au dernier rang de la foule, suivirent. 2 minutes après, ils arrivaient sur le bord de la rivière et s'arrêtaient à moins de 50 pas du bûcher sur lequel était couché le corps du Raja. Une torche fut approchée et le bois imprégné d'huile s'enflamma aussitôt.
La scène changea soudain. Un cri de terreur s'éleva. Le vieux Raja n'était pas mort. On le vit se redresser tout à coup, comme un fantôme, soulever la jeune femme dans ses bras et descendre du bûcher. Puis il arriva ainsi, près de l'endroit où se tenaient Monsieur Fogg et Sir Francis Cromarty, et là, d'une voix brève,
« Filons !»
C'était Passepartout qui, lui-même, qui s'était glissé vers le bûcher au milieu de la fumée épaisse. C'était Passepartout qui, profitant de l'obscurité profonde encore, avait arraché la jeune femme à la mort. Un instant après, tous 4 disparaissaient dans les bois et l'éléphant les emportait d'un trot rapide. Et en quelques instants, ils se trouvaient hors de la portée des balles et des flèches.
Le hardi enlèvement avait réussi. Vers 10 heures, le guide annonça la station d'Allahabad. La reprenait la voie interrompue du chemin de fer. La jeune femme fut déposée dans une chambre de la gare. Passepartout fut chargé d'aller acheter pour elle divers objets de toilette, robes, châles, fourrures, etc. Ce qu'il trouvait, son maître lui ouvrait un crédit illimité.
Mrs. Aouda commençait à revenir à elle. C'était une charmante femme qui parlait l'anglais avec une grande pureté. Cependant, le train allait quitter la station d'Allahabad. Enfin, à 7 heures du matin, Calcutta était atteint.
Voici maintenant une petite scénette en anglais où Phileas Fogg demande du lapin dans un restaurant de Bombay, mais il pense qu'on lui a servi du chat au lieu d'un lapin. Noor joue le rôle du serveur et Bruna celui de Phileas Fogg.
Waiter!
Yes, sir.
What is it?
Rabbit, sir.
It's not rabbit.
Yes, sir. It's a rabbit from the jungle.
Rabbit from the jungle. This cat?
Oh, no, sir.
Cats are respected in the good old days.
You mean good days for cats, my lord?
For cats and maybe travelers too.
Vous le savez, depuis notre première émission, une grande partie des œuvres de Jules Verne sont des romans d'aventure, comme Le Tour du Monde en 80 jours, mais aussi de science-fiction ou d'anticipation. Jules Verne est le premier à avoir fait visiter le globe terrestre à ses lecteurs à l'aide d'engins récents, qu'il améliorait ou bien qu'il imaginait totalement différent. Ses héros utilisent des ballons en fait des montgolfières, le train invention assez récente à son époque, le bateau qu'il n'hésite pas à transformer en île flottante ou en bateau à hélice volant.
Les personnages se servent aussi du sous-marin ou encore d'un obus géant qui fait inévitablement penser aux fusées Ariane d'aujourd'hui et aussi d'un radeau géant contenant un village entier, etc. Il était vraiment très en avance pour son époque.
Voici maintenant le résumé de 4 romans d'anticipation.
Great, coming up 9 minutes. We're now in the approach phase, everything looking good. Altitude 4200.
Good thing you're a go for landing, over.
40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Great shadow. 4 forward. 4 forward, drifting to the right a little. 6, down a half.
30 seconds.
Forward, just... Contact light. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Vous venez d'entendre les astronautes américains qui décrivent leur arrivée sur la Lune. Dans le roman De la Terre à la Lune, écrit en 1865, deux Américains et un Français ont décidé d'atteindre la Lune en s'enfermant dans un obus lancé par un gigantesque canon.
Le tir est un succès. Sur la Terre, après l'enthousiasme, arrive l'inquiétude, car il est impossible de suivre le projectile à cause des nuages. Au bout de quelques jours, celui-ci est finalement découvert en orbite autour de la Lune. Ce n'est qu'en 1969 que les Américains parviendront sur la Lune. Jules Verne avait 100 ans d'avance. En 1892, Jules Verne a écrit Le Château des Carpates.
Près du village de Werst, en Transylvanie, se dresse le château des Carpates qui, depuis le départ du dernier représentant de ces seigneurs, Roldof de Gortz, est complètement abandonné et fuit par tout temps. Les rumeurs alarmantes et folles légendes circulent à son sujet. Un jour, une fumée est aperçue au loin du donjon. Malgré leur peur, le jeune forestier Nick Deck et le docteur Patak partent en reconnaissance et sont victimes du phénomène surprenant.
Peu après ces événements, le comte Franz de Télek, qui voyage pour oublier la mort de sa fiancée, la cantatrice Tilla, arrive à Werst, apprenant que le château des Carpates appartenait à celui qui l'avait maudit au moment du décès de Stilas. Il a décidé de s'y rendre. Dans le roman, Jules Verne a déjà imaginé la visioconférence.
Dans le roman, Robur le Conquérant, écrit en 1886, l'invention de Jules Verne ressemble à un papillon hélicoptère. Trois membres d'un club aéronautique américain sont kidnappés par un mystérieux personnage qui leur fait traverser le monde à bord d'une gigantesque machine volante. Comme dans beaucoup de ses romans, Jules Verne est en avance sur son temps. Cette fois-ci, il voit que les avions qu'on appelait à l'époque les aéronefs prendront le devant sur les appareils comme les montgolfières ou dirigeables que l'on appelait aérostats. Maintenant, nous allons vous parler du roman Une ville flottante, écrit en 1871.
Dans cette histoire, il nous parle d'un bateau, ou plutôt d'un immense bateau digne du Titanic. Il mesure 211 mètres de long, environ 36 mètres de large et peut transporter jusqu'à 4000 passagers. Mais sa destinée sera moins tragique que celle du Titanic. Jules Verne a participé à une traversée à bord du bateau, le Great Eastern, et cela l'a impressionné. Ce bateau apparaît à plusieurs reprises dans le voyage extraordinaire, tout particulièrement dans une ville flottante. Notez que ce navire, qui a servi à transporter le cap transatlantique, permettant la communication entre l'Amérique et l'Europe.
C'est au nord-ouest de l'Inde que l'on trouve le point culminant de la Terre dans le massif de l'Himalaya.
D'où vient son nom ?
Comment cette immense chaîne montagneuse s'est-elle formée ?
Des hommes ont-ils gravi les sommets ?
C'est ce que nous allons voir maintenant. En sanskrit, le mot Himalaya signifie « demeure des neiges ». Hima veut dire « neige » et Alaya, c'est la maison. Cet ensemble de chaînes de montagnes s'étire de plus de 2400 km de long et 250 à 400 km de large.
Le sanskrit est une langue de l'Inde parmi les plus anciennes langues indo-européennes connues, plus ancienne même que le latin et le grec. C'est notamment la langue des textes religieux hindous, et à ce titre, elle continue d'être utilisée comme une langue culturelle, à la manière du latin au siècle passé en Occident.
L'Himalaya abrite les plus hautes montagnes du monde, soit les 14 sommets qui culminent à plus de 8000 mètres d'altitude, dont le mont Everest, le plus haut de tous, qui mesure 8848 mètres.
Il y a aussi le K2, le Kanchenjunga, le Lhotse et le Makalu. Ces sommets sont recouverts de neige toute l'année et les glaciers alimentent de nombreuses rivières qui coulent en Inde ou au Pakistan.
Le Gange prend naissance dans le glacier du Gangotri, puis coule vers le sud-ouest à travers les plaines du nord de l'Inde. Le Brahmapoutre prend naissance dans l'ouest du Tibet et le traverse avant d'atteindre le nord-ouest de l'Inde, où il se dirige vers le sud.
Le Gange et le Brahmapoutre se rejoignent au Bangladesh et se jettent dans la baie du Bengale en formant le plus grand delta du monde. Les sommets de l'Himalaya ont donné lieu à de nombreuses expéditions d'alpinistes renommés et ont tous été conquis.
Dentsing Norgay est né en mai 1914 à Tengbosch, au nord-ouest du Népal, et mort le 9 mai 1986 à Darjeeling. Il est le premier homme avec Edmund Hillary à atteindre le sommet de l'Everest le 29 mai 1953.
Gerhard Lorton était le troisième alpiniste à avoir gravi les 14 sommets de la planète qui dépassent les 8000 mètres. Il était suisse.
Maurice Herzog était un alpiniste français qui est devenu célèbre pour avoir participé à la première expédition ayant gravi un sommet de plus de 8000 mètres en franchissant l'Annapurna, 8091 mètres dans l'Himalaya, le 3 juin 1950.
Il était accompagné dans cette terrible équipé par Louis Lachenal, qui comme lui perdit plusieurs doigts et orteils gelés, et des guides de haute montagne Gaston Rebuffa et Lionel Terray.
Nous recevons aujourd'hui Gilles Boucher, alpiniste qui a gravi l'Everest. Bonjour Gilles Boucher.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter ?
J'ai fait entre autres le sommet de l'Everest, mais aussi d'autres montagnes. J'ai évidemment fait le Mont Blanc, comme beaucoup de gens, et plein d'autres montagnes qui se situent notamment en Himalaya. Donc l'Himalaya, c'est très vaste, hein. C'est une chaîne de montagnes qui fait plusieurs milliers de kilomètres, mais aussi de la montagne en Alaska, dans d'autres parties de l'Himalaya. Il y a aussi le Karakoram, il y a plein d'autres chaînes. Ça va du Mont McKinley, donc qui est le sommet de l'Amérique du Nord, à la Aconcagua, sommet de l'Amérique du Sud, l'Everest évidemment, mais c'est aussi le Makalu, le K2, pour les sommets de plus de 8000 mètres. Donc c'est un parcours d'expédition, hein, qui est très, très varié, avec beaucoup d'ascensions sur des sommets de plus de 8000 mètres. Bon, un peu partout dans le monde. On parle beaucoup aujourd'hui de l'Everest, mais autour de l'Everest, vous avez tout ce qu'est les 14-8000. Donc en fait, il y a 14 sommets de plus de 8000 mètres qui se situent essentiellement en Himalaya. Mais l'Himalaya, c'est un abus de langage. En fait, il y a deux chaînes. Il y a la chaîne du Karakoram, où se situent 5 d'entre eux, et pour le reste, ils se situent dans la chaîne de l'Himalaya. Effectivement, c'est une chaîne qui est très longue, puisqu'elle passe du Pakistan. Ensuite au Népal, du moins Tibet-Népal, hein, sur cette partie-là, et va se prolonger très loin, tout en passant par les ex-républiques de l'Est, que ce soit Kyrgyzstan. Donc ça, ça donne un peu ces éléments, parce que ça vous permet de mettre en perspective le fait qu'on parle beaucoup de l'Everest, mais il y a beaucoup de choses autour, hein. L'Everest, c'est pas seulement, il n'y a pas que ça en Himalaya, c'est beaucoup plus grand que ça.
En quelle année avez-vous gravi l'Everest ?
Moi, j'ai gravi l'Everest en 2006, tout en sachant, comme je vous ai dit, dans ma démarche, l'Everest n'était pas une finalité montagne pour moi. Je n'ai fait que l'Everest, puisque avant j'avais été au K2, qui est la deuxième seconde montagne du monde, hein, plusieurs fois, qui fait 8611 mètres, donc qui est à peine moins haute que l'Everest, mais qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus technique. Donc regardez, allez sur le site altissima.org, par exemple, qui vous permettra d'avoir l'information sur le K2 notamment, qui est une montagne pyramidale dont on, quand on a vu l'image, qui est comme le Cervin en Europe, qui est une montagne pyramidale avec une esthétique particulière. Donc en fait, comme j'avais fait pas mal d'expéditions avant sur des montagnes très difficiles et très techniques, notamment K2, Nanga Parbat qui se situe aussi au Pakistan, faisait que beaucoup de gens veulent faire l'Everest. Donc je me suis dit, moi qui étais sur les montagnes très techniques, pourquoi pas maintenant aller m'étalonner sur l'Everest, puisque est-ce que c'est difficile, pas difficile, pour avoir un repère, alors que dans ma démarche au départ, c'était la seule montagne que je ne souhaitais pas gravir. Tout simplement parce que l'Everest, ça attire beaucoup de gens qui ont des motivations totalement différentes, hein, des parcours très différents. Et c'est vrai que c'est pas souvent pour les alpinistes, c'est pas leur premier choix. Quoi. Je veux dire, moi j'avais choisi une montagne plus technique et je n'avais pas spécialement d'aller à l'Everest. Maintenant, après, bon, on veut pas y aller et puis on finit par y aller.
Est-ce que se préparer pour escalader une montagne prend beaucoup de temps?
Oui et non. Toujours pareil. Il faut avoir une bonne. Encore une fois, vous m'avez dit une montagne. Alors, il faut savoir que l'himalayisme et par extension l'alpinisme, c'est une activité technique. Donc après, suivant la montagne que vous allez choisir, la voie, mais c'est valable aussi dans les Alpes, ça, c'est valable partout dans les Pyrénées aussi. Suivant la voie que vous allez choisir et sa technicité, il vous fera plus ou moins de préparation technique, plus ou moins de préparation physique, etc. Mais si on reste dans le cas de l'Everest, mon opinion, c'est que ça dépend comment vous le gravissez, puisque il y a des gens qui vont, il y a des grosses expéditions commerciales aujourd'hui à l'Everest qui vont vous livrer l'Everest clé en main. Moi, je connais des Sherpas qui vous signent un papier, c'est ce que je dis, c'est à peine sérieux, hein. Mais ils vous garantissent 100% du sommet de l'Everest avec eux. Parce que la logistique est rodée, parce qu'ils vont vous porter suffisamment d'oxygène jusqu'au sommet pour que ça se passe bien, etc. Ça, c'est une, voilà. Donc, c'est pour ça que l'ascension de l'Everest, notamment, est partiellement décriée. Hein. Et vous avez une méthode légère, c'est ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire que vous portez tout votre matériel, vous essayez peu ou pas, tant que c'est possible, de ne pas utiliser d'oxygène d'aide artificielle comme l'oxygène, et vous êtes seul dans la montagne et vous vous débrouillez par vos propres moyens. Donc là, effectivement, la difficulté de l'ascension est très différente, et pour répondre à votre question, il ne faut pas la même préparation, c'est-à-dire que votre niveau technique en montagne doit être bon, vous devez être vraiment autonome en montagne, c'est-à-dire que vous pourrez vous reposer sur personne si vous avez un problème physique, etc. Et vous devez évidemment avoir une très grosse condition physique.
Est-ce que c'est difficile physiquement ?
Effectivement, il y a une difficulté qui est ajoutée, qui est souvent mésestimée, c'est-à-dire que beaucoup de gens dénigrent l'altitude, disent « Ah bah oui, bah d'accord, c'est pas difficile, etc. » Mais en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que comme il y a de l'hypoxie, alors l'hypoxie, je vais résumer ça, c'est moins d'oxygène dans l'air. Vous avez autant d'air, mais il y a moins d'oxygène dans l'air. Donc ça, vous demanderez pour avoir plus de détails là-dessus. Ce qui se passe, c'est que comme vous avez moins d'oxygène, bah, la machine, elle marche moins bien. C'est beaucoup plus difficile de monter. Vous montez moins vite, moins fort.
Il doit faire très froid là-haut.
C'est une question qu'on me pose souvent. Le froid, ça dépend. On a un peu l'image de il fait très froid en altitude. Il peut faire très froid, mais il ne faut pas oublier que là-bas, nous, on y va, entre guillemets, à la bonne saison. On n'y va pas en plein hiver. Par exemple, vous pouvez être à 6000, 7000 mètres d'altitude, avec une petite polaire et une petite veste coupe-vent. Ça suffit très largement, évidemment, des gants, un bonnet, mais c'est pas, vous n'avez pas forcément besoin d'être dans une très grosse combinaison. Après, effectivement, je pense que le froid, c'est plutôt la perception face au froid, parce qu'on a parlé d'hypoxie, mais l'hypoxie, c'est pareil, ça induit plus de froid, du moins, la perception du froid est augmentée, et on gèle plus facilement en altitude, à la même température. Alors, c'est, par exemple, il fait moins 10. Bah, le ressenti à 7000, ça sera moins 20. Au lieu d'avoir, vous sentiez, vous êtes à moins 10, vous êtes moins 20. Donc automatiquement, vous avez les pieds, tout ça, qui vont geler plus vite. C'est pour ça qu'on utilise des chaussures spéciales pour l'altitude, notamment avec un revêtement à aluminium à l'intérieur. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'équipement. Mais donc le froid, c'est... par exemple, les gens qui utilisent de l'oxygène ont moins froid. Parce que l'oxygène réchauffe automatiquement. Comme vous absorbez plus d'oxygène, ça vous fait descendre aussi d'altitude et vous avez moins froid. Par rapport aux expéditions qu'on voit au pôle Nord, au pôle Sud, je dirais que le froid, même s'il y a beaucoup de gens qui ont des gelures, hein, ça arrive très couramment aux doigts de main, aux pieds, et qui sont amputés d'ailleurs, je dirais que c'est lié à un ensemble de choses. C'est lié à l'altitude et au froid, ce n'est pas lié qu'au froid.
Merci Gilles Boucher d'avoir répondu à nos questions.
Bah de rien, c'est avec plaisir.
La relation unique entre l'homme et l'éléphant en Asie remonte à 5000 ans, quand les éléphants commencèrent à être capturés et dressés pour être utilisés dans ces cérémonies religieuses, les guerres et les agricultures. Il existe aussi des éléphants blancs qui ont une signification particulière pour les bouddhistes dans toute l'Asie. Pourquoi l'éléphant est important ?
L'éléphant est important d'un point de vue économique. Les hommes se servent des éléphants pour transporter les arbres. Océane, pourrais-tu nous en dire plus sur le mode de vie des éléphants ?
Sa taille et son comportement social en groupe ont amené l'éléphant à couvrir de longues distances et à vivre dans des endroits très différents qui offrent un refuge à une multitude d'autres espèces animales.
Beaucoup d'espèces végétales ne peuvent pousser que si l'éléphant est présent. Par exemple, certaines ne peuvent se reproduire que si leurs graines ont circulé dans le système digestif de l'éléphant, qu'elle ait ensuite été rejetée dans ses déjections pour y germer finalement.
Tu veux dire que les graines germent dans ses crottes ?
Oui, oui. La présence de l'éléphant permet donc à de nombreuses espèces animales et végétales de se développer.
Vous savez sûrement que l'éléphant d'Afrique est chassé en cachette, car c'est interdit pour ses défenses en ivoire qui sont revendues très cher, surtout en Chine.
Pour l'éléphant d'Asie, les menaces sont différentes. Il vit dans des régions parmi les plus peuplées du monde.
La croissance de la population humaine est un gros problème. Les hommes défrichent de grandes surfaces de forêt pour l'agriculture. Les éléphants et les êtres humains sont donc en compétition directe pour les mêmes ressources naturelles.
À cause de la dégradation et du morcellement des forêts, la population d'éléphants d'Asie est extrêmement fragmentée et cette fragmentation augmente les risques d'extinction par zone géographique. Fragmenter, cela veut dire séparer en beaucoup de petits groupes. Le braconnage de l'ivoire existe aussi en Asie, touchant essentiellement les mâles qui sont les seuls à posséder des défenses.
La conséquence grave du braconnage en Asie est qu'il n'y a plus assez de mâles par rapport aux femelles et cela baisse la reproduction.
Il y a encore quelques siècles, les populations d'éléphants pouvaient circuler librement sur un territoire sauvage continu, depuis l'actuel Vietnam, en passant par les contreforts de l'Himalaya et jusqu'au sud de l'Inde.
Voyons maintenant de plus près ce magnifique animal. Les éléphants sont les plus grands animaux terrestres vivants actuellement. Ce sont des mammifères herbivores à la peau très épaisse. C'est pour cela qu'ils sont aussi appelés pachydermes, pachy signifiant épais en grec et derme voulant dire peau.
Chaque jour, ils ont besoin de 150 à 260 kg de végétaux, herbes, feuilles, fruits, petites branches, et de 50 à 140 litres d'eau.
La femelle ne donne naissance qu'à un seul petit à la fois, après l'avoir gardé dans son ventre pendant 22 mois.
Chez les hommes, c'est 9 mois, on est plus rapide.
Voilà, nous espérons que cela vous aura donné envie de les protéger.
Alors n'oubliez pas,
n'achetez pas d'objets en ivoire.
Connaissez-vous Gandhi ?
Oui, Gandhi est né en 1869 à Port Bandar dans une famille indienne de marchands et il est mort le 30 janvier 1948 à Delhi. Il a consacré sa vie à la non-violence.
Après toute une vie consacrée à l'émancipation de l'Inde, Gandhi a eu la douleur de voir son pays se déchirer dans des guerres religieuses sanglantes entre hindous et musulmans. C'est quoi l'émancipation, Lily Rose ?
L'émancipation, c'est la dépendance de son pays, par exemple. Lui-même hindou, il n'a cessé de plaider pour la réconciliation des deux communautés, hindoues et musulmanes, ce qui lui a valu d'être accusé de trahison par les fanatiques de sa communauté.
La plupart des Indiens sont hindous, sauf un cinquième de la population qui sont musulmans.
Malgré son titre d'avocat, Gandhi fut victime de mépris des blancs pour le peuple de couleur.
Par exemple, en 1893, en Afrique du Sud, où il s'était rendu pour son travail d'avocat, le juge d'un tribunal lui demanda d'ôter son turban.
Il refusa.
Dans un train, le contrôleur lui ordonna de quitter la place qu'il avait réservée car il n'était pas blanc.
Il refusa.
À l'arrêt, on le jeta sur le quai avec ses bagages. Il fut giflé, battu, injuré par le conducteur. Il se battut comme Nelson Mandela plus tard pour l'égalité des gens de couleur.
En 1915, Gandhi retourna en Inde où il fut accueilli comme un héros. Gandhi a appris aux Indiens à tisser leurs propres vêtements car les Anglais prenaient tout leur coton et leur vendaient, les vêtements qui étaient fabriqués en Angleterre.
En 1947, l'Inde obtient son indépendance. Le Pakistan est créé. 12 millions de personnes sont obligées de partir de l'Inde vers le Pakistan et inversement. Ces déplacements provoquent des milliers de morts. Gandhi défendait les musulmans auprès des hindous. Il fut assassiné par un hindou très croyant.
Ce que l'on peut retenir de tout ça, Elisa, c'est que Gandhi était un homme politique indien qui a lutté pour l'indépendance de son pays. Avant, l'Inde était une colonie britannique.
Oui, tu as raison, Lily Rose. En effet, et aussi, on peut dire que Gandhi était un honnête homme et une bonne personne.
C'était la sixième émission de CM2 de l'école Valin à La Rochelle sur le ton du monde en 80 jours d'après Jules Verne. Nous avons pu entendre les musiques suivantes. The Final Countdown du groupe Europe, de la musique de Rajasthan, de la danse indienne, une musique du Népal, Farley Williams et la musique du film Himalaya, l'enfance d'un chef. Nous remercions l'équipe de Radio Collège, en particulier Stéphane, ainsi que les animateurs pédagogiques qui ont construit le site internet qui sert de support à nos émissions. Un grand merci à Christian Vinant et Sylvie Favre.
Nous vous attendons pour un 7e épisode. Nos héros arriveront à Calcutta.
À bientôt pour une nouvelle émission.